dans le livre de Éphésiens. Donc on va aller doucement, d'accord, parce que le livre d'Éphésiens, c'est une lettre, d'accord, qui Paul a écrit à cette église, à cette assemblée qui s'est réunie dans la ville d'Éphèse. C'est pourquoi il l'appelle Éphésiens, d'accord. Donc c'est une lettre, on l'appelle une lettre circulaire, donc pour tous les croyants qui étaient dans cette ville. Donc on croit que c'est Paul l'auteur, donc il même l'écrit. Et dans le chapitre 3, verset 1, il était en prison à Rome. Donc, ce n'est pas la seule lettre qu'il écrit, il écrit aussi aux Philippiens, aux Colossiens et aussi à Philémon, le nom de la Bible que vous pouvez chercher. Donc, et cette lettre a été. Et il est parti. Donc, dans les prisons, comme les prisons aujourd'hui, il y avait un moment où des personnes pouvaient venir et le rendre visite. Donc, un visiteur, et pas simplement Timothée, mais un autre qui s'appelle Tychique ou Tychique. Qui, on croit que c'était celui qui a emporté la lettre aux Éphésiens. Donc, ça, c'est un peu le contexte historique.
Donc, on puisse le voir comme ainsi.
Mais Paul aussi va écrire cette lettre aux Éphésiens pour dire des choses essentielles à. Il est expliqué qui nous sommes en Christ. D'accord. Et comment l'amour de Dieu est arrivé jusqu'à nous. Mais il va le faire d'une façon différente. Il va pas commencer de l'homme vers Dieu. Il va commencer de Dieu vers l'homme. Et ça, c'est différent. Évidemment, on va arriver un peu plus jusque-là. Et surtout, je vous encourage parce qu'une lettre, comme n'importe quelle lettre, on développe des sujets au fur et à mesure qu'on écrit. Parce qu'on n'écrit pas tout, on termine un sujet, on passe à un autre. On développe tout un sujet.
En toi, je sais qui je suis. Donc, si vous avez votre Bible,
je vous invite à l'ouvrir.
Oui, si vous ne l'avez pas au téléphone, ça va être affiché
de toute façon ici à l'écran. Donc, aujourd'hui, dans ce titre, en toi, je sais qui je suis,
nous allons parler des trois nous sommes.
Nous sommes. Qu'est-ce que nous sommes en Christ? Je vais lire simplement les deux premiers versets qui sont simplement le début de toute lettre.
Comme on dit, comme on écrit, bonjour, c'est Joël, etc.
Donc, Paul va faire la même chose, il va dire ceci. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, et aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père et le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est une introduction générale qui fait dans les autres lettres aussi, vous pouvez le constater. Et chez vous. Alors, il va entrer tout de suite au sujet de comment cette Dieu est venu, comment ce plan de Dieu s'est développé pour nous chercher.
D'accord?
Donc, on va lire doucement. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Pour lui, je vous invite à chercher, à écouter combien de fois on trouve le mot et la phrase en lui. D'accord? En lui, en Jésus, il nous a choisi avant la création du monde que nous soyons saints et sans défaut devant lui et dans son amour. Il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu et dans sa bienveillance. Pour que nous célébrons la gloire de sa grâce, dont il nous a comblé dans le bien-aimé. Donc, on va s'arrêter là. Parce qu'il y a beaucoup de paroles parfois un peu plus complexes à comprendre. On parle de que Jésus, on va le résumer comme ça, que Jésus nous a prédestinés à être ses enfants. Alors, c'est grand mot, je veux dire comme ça, prédestination. Parfois, il y a une mauvaise compréhension de ce mot prédestiné. Prédestiné, ça ne veut pas dire que, je dis donc, il y a une longue queue de personnes que Dieu fait, toi oui, tu viens, tu vas à l'enfer et tu vas au ciel. Tu vas à l'enfer, tu vas au ciel. Okay.
Voilà. Donc,
ce n'est pas une sélection. Ce n'est pas qu'avant que moi je sois né, Dieu avait déjà choisi pour moi que je devienne son enfant. Parce que sinon, pourquoi nous sommes libres de choisir? Il y a un conflit. Donc, écoutez bien. Nous devons comprendre que choisir veut dire que Dieu a prédéterminé que ceux qui croient en Christ
sont adoptés dans sa famille et faites conformes à son fils. Cela implique une élection de la part de Dieu qui est fondée sur sa bienveillance et pour but de glorifier et de lui glorifier. Mais cela ne dispense pas l'homme de sa responsabilité de croire à l'Évangile afin que la prédestination s'accomplisse personnellement en lui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme moi, j'accepte Christ comme sauveur, ça veut dire que je suis prédestiné à être comme son fils, comme Jésus. Que je sois transformé à travers la parole de Dieu, à travers l'Esprit de Dieu, pour être à l'image de son fils.
Dieu n'est pas un voyant qui nous a donné, sinon
qui nous a donné la liberté
de choisir.
Et dans ce choix, la prédestination est comprise. Le seul moyen que ceci se passe,
c'est à travers Jésus
et son sacrifice. Ce n'est pas possible de notre façon. Mais pourquoi Jésus? Parce que c'est le seul qui a pu faire la différence. Le seul qui pouvait nous racheter. Le verset suivant, verset 7, en lui, par son sang, nous sommes rachetés. Pardonnés de nos fautes conformément à la richesse de sa grâce. Alors racheter, bien d'un mot légal, ça veut dire être racheté.
Pourquoi?
Quand on vient au mot biblique, il faut venir à la source. Donc la source me dit que c'est un mot légal, c'était un mot qui est utilisé pour acheter les esclaves, le marché d'esclaves. Donc le marché d'esclaves, hein, c'est bien que vous c'est fini. Mais le marché, donc je venais avec une certaine quantité d'argent pour payer et que cet esclave soit pour moi. Alors Jésus vient dans ce marché d'esclaves où nous tous, la Bible dit, on était mis, on était dedans parce qu'on est né dans le péché. Il dit que par son sang nous sommes rachetés. Donc le cri de ma liberté c'était son sang. Il paye par son sang ma vie. Et l'avantage de cela c'est qu'il me dit: tiens Joël, je te rends la liberté. Je te la rends. C'est pas simplement que il me rachète. Sinon, il me donne, c'est un papier qui donne, il va faire. Il m'a acheté par son sang. Jean 3,16 qui dit: car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne perdisse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, le prix de ma vie était exorbitant. C'était très, 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 très cher et Dieu a payé cela. Et ceci nous révèle son plan. Verset 8. À
l'italiste.
Dieu nous l'a accordé avec abondance, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté conformément au projet bienveillant qu'il avait formé en Christ. Donc il avait un projet, un plan pour le mettre en exécution lorsque le moment serait vraiment venu, à savoir tout réunir sous l'autorité du Messie, aussi bien ce qui est dans le ciel et sous la terre.
Qu'est-ce que ça veut dire cela?
C'est que là, une fois qu'on a, et Dieu vient, il nous montre son plan, il nous indique qu'est-ce qui va se passer aussi. Et en fait, toute cette puissance de Dieu, il est donné pour que Jésus soit le seul glorifié dans ce monde, celui maintenant et ce qui viendra. Il n'y a pas d'une autre façon pour montrer qu'il est puissant. Alors,
docteur aussi, ici, remarque que c'est important de le dire, c'est qu'il nous donne l'intelligence de pouvoir comprendre.
Et ceci
vient avec le fait que nous sommes
choisis.
Et avec ceci, nous voulons dire que Christ n'est pas une fable que quelqu'un a inventée. Personne ne peut nier l'existence de Jésus. Aucun historien, dans son bon sens, peut dire que Jésus n'a jamais existé. Ils peuvent essayer de nier la résurrection, par contre. Sauf que, on a dans la Bible des témoins visuels qui l'ont vu ressusciter. 500 d'un coup. C'est impossible de voir 500 personnes être prises par une folie d'un coup. C'est impossible. Et en plus, comment de plus? Écoutez, et comment dire que tout ça, c'est vrai? J'ai cherché et j'ai vu une vidéo cette semaine. Il dit combien de manuscrits on a de pour valider ce qu'on est en train de dire. Il y a 12 manuscrits dans lesquels on dit Alexandre le Grand, il a bien existé. 12. Il y a 250 manuscrits pour dire Jules César existait. On a plus de 20 000 pour dire que Jésus existait. Plus de 20 000 pour dire que la Bible est vraie. Que ce n'est pas une copie, une fable que quelqu'un a inventé. Plus de 20 000 aujourd'hui en existence. Donc, ce qu'on croit, ce qu'on est en train de lire, ce n'est pas simplement une fable, c'est une vérité. Donc, c'est une bonne nouvelle. Et si l'être choisi nous donne la possibilité de comprendre que cela est vrai, ce n'est pas une invention. C'est quoi le but de la prédestination d'être choisi?
D'être héritier. Et nous avons été désignés comme héritiers, ayant été prédestinés au choisi et suivant le plan et plan de celui qui met tout en ordre conformément aux décisions de sa volonté.
Pour servir à célébrer sa gloire qui nous avons par avance espéré dans le Messie. Quel est le but de la prédestination? C'est d'être héritier en lui pour célébrer sa gloire.
Cela veut dire que notre vie,
déjà le fait que nous l'appartenons, soit un motif de nous réjouir que nous avons un sauveur, Jésus. Donc, tout le plan de Dieu, c'est que donc, Dieu a écrit son plan avant la création de ce monde. Pour dire, cela va se passer. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que l'amour de Dieu était tellement énorme qu'il a choisi un jour, il va faire un ministère extraordinaire, il va mourir à la croix. Mais simplement mourir, il va ressusciter. Et aujourd'hui, il est vivant. C'est le seul leader religieux, se plaît comme ça, qui est vivant. Tous les autres, ils sont encore dans leur tombeau.
Tous les autres, ils n'ont pas de puissance. C'est seulement
Dieu, Jésus,
a cette puissance. Donc nous sommes
choisis. Paul dit, écoutez mes amis,
nous sommes choisis.
En toi, je sais que je suis choisi. Et ça, c'est important de dire. Pourquoi? Parce que dans le moment difficile de la vie, quand Paul était emprisonné, il dit, je sais qui je suis.
Donc,
si l'Éternel a mis toute sa puissance pour développer un plan pour moi et pour que cela lui rende gloire, que de mieux.
Nous sommes choisis, mais en même temps, la Bible dit que nous sommes scellés. Alors, qu'est-ce que ça veut dire scellés? Versets 13 et 14. On voit la chose suivante.
En lui, je ne sais pas si vous comptez déjà, en lui, et vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité,
l'évangile, ou la bonne nouvelle,
qui vous sauve, en lui, vous avez cru et vous avez été marqué de l'empreinte du Saint-Esprit qui avait été promis. Il est le gage de notre héritage en attendant la libération de ce que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire.
Encore une fois,
c'est incroyable que nous sommes choisis, mais aussi scellés, une marque, une garantie. Pour ceux qui aiment un peu l'histoire, et parfois on voit dans l'histoire que les rois, et quand ils envoyaient une lettre, ils mettaient un peu de cire, et leur anneau, pour marquer des guillemets. Et c'était une marque de quoi de dire, oui, ça vient bien de moi. Et ça montrait une appartenance, ça montrait de où
ça venait. Donc, quand...
Et Paul est content de dire, quand l'Esprit de Dieu, quand on choisit par notre liberté que Jésus soit notre sauveur, Dieu nous donne son Esprit. Comme cette marque du roi dit, vous m'appartenez. Et cet Esprit-là va faire quoi? C'est déjà une gage de notre héritage. Pourquoi? Parce que David dit qu'on devient enfant de Dieu. Enfant de Dieu. On n'a pas le temps aujourd'hui pour expliquer davantage, mais je vous l'explique comme ça. Avant de connaître Jésus, on n'était pas enfant de Dieu. Il dit qu'on était mort dans la souffrance et dans le délit et péché. Mais Dieu qui est fort, il nous a redonné la vie en Jésus-Christ. C'est Ephésiens chapitre 3. On va le voir. Si vous continuez à venir, on va expliquer dans le même. Il nous a redonné la vie en Jésus-Christ et grâce à cela, on a cette gage de cet héritage en lui, que c'est le Saint-Esprit de Dieu.
que nous l'appartenons.
Oui.
Ce qui est assez incroyable, c'est ce que Aurélie disait, et en même temps, on devient enfant. Donc avant, on n'était pas enfant, on devient enfant. Quand on devient enfant, on a un père. Et on a une nouvelle identité. Cette identité, n'importe ce que je fasse, n'importe si, pour quelque raison, et dans l'avenir, je commets un crime, je ne vais pas le faire, je commets un crime, je vais en prison. Quand je rentre en prison, je ne change pas de nom de famille. Je ne perds pas mon nom de famille. Il y a une conséquence à mes actes, mais je ne perds pas mon nom de famille. Je ne cesse pas d'être Joël Dobbs. Je ne cesse pas d'être un enfant de Dieu parce que j'ai commis un péché. Jésus reste mon Père. Dieu reste par mon Père et cela ne change pas. Grâce à quoi? Grâce à la présence de l'Esprit de Dieu. Cela ne veut pas que je dois me comporter comme n'importe quoi. D'accord? Alors, pour confirmer ce que Paul vient de dire, et dans une autre lettre qu'il a écrite aux Corinthiens, il dit, oh, c'est lui qui nous a affermis avec vous en Christ et qui nous a consacrés par son onction. C'est Dieu. Il nous a aussi marqué de son empreinte et mis l'Esprit comme un gage dans notre cœur. Donc l'Esprit de Dieu vient être notre gage, notre héritage. Ça veut dire quoi? Quand Dieu, comme on te disait tout à l'heure, le temps est proche et Dieu va chercher son Église, on va le lire tout à l'heure,
Dieu va chercher son Église, ses enfants, l'Esprit de Dieu, Dieu va reconnaître qui lui appartient. Ce n'est pas ceux qui se comportent bien, et ça déjà c'est bon.
C'est celui et tous ceux qui ont accepté Christ comme sauveur dans leur cœur. Nous sommes choisis, nous sommes scellés. Et la naissance, nous sommes illuminés. Attention, illuminé ne veut pas dire que nous sommes une sorte d'élite. Soit illuminé.
D'accord? Loin de là, tout le contraire. Illuminé dans le sens de comprendre que tout ce que nous avons en lui, à savoir l'espoir, les bénédictions, sa puissance, est à notre service et aussi nous aider à être obéissants à notre chef, Jésus.
C'est pourquoi, moi aussi, après avoir entendu parler de votre foi dans le Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, je prie que le Dieu de notre Seigneur, Jésus-Christ, le Père des gloires, vous donne un esprit de sagesse et de révélation et qu'il vous fasse connaître. Je prie qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Qu'il est la richesse de son glorieux héritage au milieu des saints, donc tout ce que nous avons en lui. Et quelle est l'infinie grandeur de sa puissance qui se manifeste avec efficacité par le pouvoir de sa force envers nous qui croyons. Donc il y a une force. Il nous illumine
pour comprendre quelle est la grandeur de sa grâce, de sa puissance en nous. Pour nous transformer. Vous voyez, tout ce qui Paul t'en dit, c'est tout ce qui vient de haut, c'est pour nous aujourd'hui. C'est pour nous aider à vivre conforme à notre appartenance. En toi, je sais qui je suis. En toi, je sais que je t'appartiens.
L'illumination repose sur le fait que l'Esprit de Dieu nous montre notre besoin de lui dans notre humanité et nous conduit à vivre car il a tout mis sous ses pieds. On va continuer à lire verset 20.
Cette puissance, il a déployé en Christ, quand il a ressuscité, il a fait asseoir, à la droite dans le lieu céleste. On parle au Dieu et au Jésus aujourd'hui.
Au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute souveraineté et de tout
nom qui peut être nommé, non seulement dans le monde présent, mais encore dans le monde à venir. Il a mis tout sous ses pieds, il a donné pour chef suprême à l'Église avec notre majuscule.
Église, ça veut dire tous ceux qui se réunissent ensemble pour louer le Seigneur.
Ce n'est pas moi tout seul, c'est l'ensemble.
Pourquoi faire qu'il y ait son corps, la plénitude de celui qui remplit de tout en tous. Donc notre illumination est celle de Dieu sous nous, à travers de son Esprit qui vient habiter en nous pour nous permettre de vivre selon la volonté de Dieu et sous sa main puissante.
Donc, avant que le monde soit créé, Dieu avait déjà planifié comment il allait faire. Je vais aller rapidement, on croit qu'Adonai était les deux premiers hommes et femmes ont été créés. Donc eux, ils ont été créés par Dieu de façon parfaite, hein. Il n'y avait pas de péché. Et d'un coup, cette serpent vient à confronter Ève et lui dit, écoute, mais Dieu a dit que tu as mangé ton souci, tu vas être comme lui, tu vas connaître le bien et le mal. Donc, tant Ève comme Adam, pas simplement je vais dire à Ève, tant Adam comme Ève, ils sont tombés sous le mensonge. Ils sont commis un péché de désobéissance. La Bible dit, pour un seul péché, l'humanité toute entière est tombée sous le péché. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Dans le moment qu'ils ont compris, qu'ils ont mangé cette fruit, ils ont compris qu'ils étaient nus. Ce n'était pas avant, parce qu'avant, ils n'avaient pas le péché. C'était
on appelle une étape,
un moment de innocence. Donc, quand ils ont mangé, ils ont compris qu'ils étaient nus. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont cherché quelque chose pour se couvrir. Mais l'éternel Dieu qui vient se déchercher, qu'est-ce qu'il fait? Il leur donne des peaux, une peau faite pour s'habiller. Donc, il y a eu un sacrifice. Depuis ce moment-là, pour couvrir la honte, le malheur. Si on ramène tout cela aujourd'hui à 2000, ça fait 2000 ans, pardon, quand je suis bien, il y a moyen pour nous. Pas simplement pour couvrir la honte sur notre péché, c'est pour l'effacer. Complètement. Parce qu'à cause de ce péché, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est séparés, on est mort. Donc Dieu vient nous chercher et nous donne sa paix en conquis en Christ. Et quand je suis en Christ, quand Jésus devient mon sauveur, mon Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Tout change. Tout change. Ça ne veut pas dire que toutes mes pensées changent, ça veut dire que maintenant j'ai l'aide de ce Dieu puissant éternel à mon service pour mon bien. Avec le but de quoi? Pour célébrer sa gloire.
Nous sommes choisis, nous sommes scellés, nous sommes illuminés. Alors, la question à se poser ce matin est la suivante. Êtes-vous
un enfant de Dieu? Et ce n'est pas quelque chose d'une élite. C'est quelque chose de dire, ok, j'ai compris le message de l'évangile, j'accepte, je crois que je suis pécheur. Je crois que je ne peux pas arriver au ciel par moi. Je crois que, comme Paul vient de dire, le plan était déjà donné pour moi. J'accepte ce sacrifice. J'accepte la résurrection de Christ.
Et je l'accepte comme mon sauveur personnel. L'auteur de cette lettre écrit à une assemblée où les gens connaissaient ce langage,
ce qu'il disait. Mais vous comprenez?
On lui veut dire que vous pouvez aussi laisser la place de votre vie à Jésus qui a tout donné, qui s'est sacrifié pour nous, nous a donné l'espérance de vivre avec lui pour l'éternité et aussi de compter avec un ami fidèle quotidiennement, malgré les circonstances que nous vivons chaque jour.
Mes amis, le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, c'est pour que les Éphésiens s'en souviennent. Ce que Dieu a fait.
Ce que Dieu a fait.
Le chapitre 2 va aller à expliquer en avantage comment on est sauvé par grâce. Chapitre 3, comment on a ressuscité avec lui. Et chapitre 4, 5 et 6, ils vont dire comment cela doit se voir dans la pratique. Pas simplement la théorie, mais la pratique.
La première partie de la théorie, ça veut dire
ce que Jésus a fait depuis le ciel jusqu'à moi. Et cela, c'est pour nous tous. Je vous invite à prier.
Prier, ça veut dire parler avec Dieu.